Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir chers amis auditeurs, ravis de vous retrouver en ce dimanche 17 janvier 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique. Au Sahara occidental, tout est bloqué, tout comme à Rabat. Israël a perdu une première bataille. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, déclaration de la Troïka européenne sur la production d'uranium métal, réaction de l'Iran. Deux femmes juges assassinées par balles dans le centre de Kaboul en Afghanistan. Et puis Washington et les principales villes américaines en état d'alerte avant des manifestations pro-Trump, des milliers de menaces contre des politiciens avant l'investiture présidentielle. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Déclaration partielle et partielle de la Troïka européenne sur la production d'uranium métal, réaction de l'Iran. L'Iran affirme que son plan pour une usine d'uranium métal est une question totalement différente de celle de la production de combustible avancée pour le réacteur de recherche de Téhéran. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a fait cette remarque en réponse à une déclaration des trois signataires européens de l'accord multilatéral nucléaire iranien de 2015. Elle a exhorté l'Agence internationale de l'énergie atomique à s'abstenir de mentionner des détails inutiles dans son rapport afin de ne pas provoquer des malentendus. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a également déclaré qu'elle soumettrait le questionnaire d'information sur la conception de l'usine d'uranium métallique à l'AIOA dans les délais prescrits. Dans sa déclaration, l'AIOA ajoute que le programme de production de combustible avancé, comme indiqué dans le récent rapport de l'AIOA, a été soumis pour la première fois à l'agence il y a plus de 2 ans et que des informations supplémentaires ainsi que le questionnaire d'information sur la conception ont été fournis à l'agence en plusieurs étapes durant cette période. Dans une déclaration commune samedi, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, trois signataires de l'accord international sur le nucléaire iranien, qui n'ont jamais honoré leurs engagements envers Téhéran liés au pacte, ont critiqué les projets de l'Iran de produire de l'uranium métal. La déclaration du trio européen, cependant, ne traite pas du non-respect par ce dernier de ses engagements nucléaires envers Téhéran. Téhéran réagit aux rumeurs sur une possible libération du navire sud-coréen. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a commenté les rumeurs sur la possibilité de libérer un navire sud-coréen récemment saisi par l'Iran. Le diplomate a fait ses remarques en réponse à une question posée par des journalistes sur les rumeurs autour de la libération possible du navire sud-coréen. Il a souligné que les décisions prises par la justice iranienne sont annoncées uniquement par son porte-parole et que toute déclaration hors de ce cadre manque de fondement. Le porte-parole a en outre expliqué que le navire sud-coréen avait été saisi pour avoir pollué les eaux iraniennes sur le golfe Persique et au nom d'une décision judiciaire de l'Iran. faisant toujours l'objet d'une enquête. Seul le pouvoir judiciaire a la compétence de faire des annonces à cet égard, ajoute le diplomate. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé dans un communiqué le 6 janvier qu'un navire sud-coréen transportant 7200 tonnes de produits pétrochimiques avait été saisi pour violation des protocoles environnementaux dans le golfe Persique. L'ambassade de Corée du Sud à Téhéran a confirmé mercredi dernier l'état de santé des 20 marins. Un des principaux collaborateurs du président élu américain Joe Biden a critiqué la décision de l'administration sortante Trump de désigner le mouvement populaire d'Ansar Allah du Yémen comme groupe terroriste. Jack Sullivan, candidat au poste de conseiller à la sécurité nationale de Biden, a déclaré que cette décision ne ferait qu'infliger davantage de souffrance aux Yéménites et empêcherait la diplomatie de mettre fin à la guerre. Plus tôt cette semaine, le département d'État de l'administration finissante a émis Ansar Allah sur la liste noire. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a accusé le mouvement de déstabiliser la région. Ansar Allah contrôle la capitale Sanaa et une grande partie du nord du Yémen depuis 2014, après la fuite du président démissionnaire de l'époque Abd Rabbo Mansour Hadi en Arabie Saoudite. Un an plus tard, Riyad et certains de ses alliés arabes ont lancé une guerre dévastatrice contre le Yémen afin de ramener au pouvoir Hadi. L'agression menée par l'Arabie Saoudite a tué des dizaines de milliers de Yéménites, pour la plupart des civils, et dévasté une grande partie des infrastructures du pays où la famine menace la vie des millions d'enfants. Des hommes armés non identifiés ont tué deux femmes juges travaillant pour la Cour suprême de Kaboul, la capitale afghane. La police a déclaré que les deux hommes armés avaient visé un véhicule transportant les juges à l'heure de pointe du matin dans le quartier chic de Teimani. Le conducteur du véhicule aurait été blessé lors de la fusillade. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque, qui est la dernière d'une série de meurtres ciblés dans ce pays ravagé par la guerre. La violence explose dans tout l'Afghanistan ces derniers mois, en particulier à Kaboul, principalement revendiqué par le groupe militant taliban. L'effusion de sang de dimanche survient alors que les négociateurs du gouvernement afghan et ceux des talibans doivent reprendre les pourparlers de paix à Doha. Direction la France, des milliers de manifestants français sont descendus dans les rues de la capitale Paris pour exprimer leur opposition à la proposition de loi sécurité globale et pour la défense des libertés. Les opposants à la proposition de loi sécurité globale ne baissent pas les bras. Plusieurs manifestations sont tenues à Paris et dans plusieurs villes de France samedi 16 janvier pour protester contre ce projet de loi qui pénalise notamment la diffusion malveillante d'images de policiers. Les manifestants ont bravé le froid et la neige pour prendre part au rassemblement pacifique qui a entraîné une forte présence policière. Il faisait partie d'une série de manifestations qui sont parfois devenues violentes au cours des trois derniers mois. Les manifestations ont rassemblé 34 000 personnes en France selon la police et 200 000 selon les organisateurs. Le ministère de l'Intérieur a fait par ailleurs état de 24 interpellations à Paris, tandis que la préfecture du Rhône en a annoncé 7 à Lyon et celle de Loire-Atlantique, 3 à Nantes. Au total, près de 80 rassemblements pour le droit à l'information contre les violences policières, pour la liberté de manifester et contre la surveillance de masse ont été organisés sur l'ensemble du territoire. Dans le nord du pays, les protestataires ont été confrontés à une météo hostile avec 32 départements placés en vigilance météo pour la neige et le verglas. Malgré une mobilisation sans précédent pour la défense et liberté, le gouvernement nous a opposé une fin de non-recevoir, regrette dans son appel à manifester la coordination. Aux États-Unis, un haut collaborateur du président élu américain a déclaré que Joe Biden signera une douzaine de décrets lors de son premier jour en fonction à la tête de la Maison-Blanche. Comme son prédécesseur, Donald Trump, Joe Biden ne va pas perdre de temps. Après une cérémonie d'investiture sous très haute sécurité, le 46e président des États-Unis veut rapidement se mettre au boulot. Celui qui occupe la Maison-Blanche pour encore quelques heures avait signé 32 décrets durant ses 100 premiers jours de mandat. Le futur chef de cabinet de Biden, Ron Klain, a déclaré que les décrets allaient s'attaquer à la pandémie de coronavirus, à la crise économique américaine, au changement climatique et à l'injustice raciale en Amérique, ajoutant que ces crises exigeaient une action urgente. Autre mesure figurant parmi la douzaine de décrets annoncés, la levée de l'interdiction d'entrée sur le territoire américain visant les ressortissants de plusieurs pays, principalement à majorité musulmane. Le passage de ces premières mesures par décret a l'avantage d'éviter de passer par le Congrès et en particulier le Sénat qui pourrait devoir se consacrer à la procédure de destitution de Donald Trump. Sachez d'autre part que les rapports de renseignement américains recueillis sur les plateformes de médias sociaux suggèrent que les autorités suivent des milliers de menaces contre les politiciens avant l'investiture présidentielle. Les menaces en ligne incluent un appel à assassiner les législateurs démocrates, la construction d'engins explosifs improvisés et l'utilisation de fusils de snipers pour tuer des agents des forces de l'ordre autour du Capitole. Cela a incité les forces de sécurité à se préparer contre des manifestations et de violences potentielles des milices pro-Trump à Washington et dans les capitales des États. Washington et les capitales fédérales se barricadent dans l'attente d'éventuelles manifestations pro-Trump susceptibles de dégénérer avant l'investiture de Joe Biden mercredi. Des barrières autour des bâtiments publics et des renforts militaires sont déployés pour tenter d'éviter des violences similaires à celles du Capitole le 6 janvier. Les autorités américaines ont annoncé l'arrestation ce vendredi 15 janvier d'un homme lourdement armé à Washington, à proximité du Capitole. Ce dernier cherchait à tromper la vigilance des gardes et à passer l'un des points de contrôle de la bâtisse. Fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de notre commentaire politique dans quelques instants. Au Sahara occidental, tout est bloqué, tout comme à Rabat. Israël a perdu une première bataille. C'est avec délectation que la presse mainstream évoque cette attaque terroriste à Tébassa qui a coûté la vie jeudi à 5 Algériens et qui a valu l'avertissement du chef de l'état-major algérien à l'ensemble de la population. Avertissement déjà fait quand les autorités algériennes on dit qu'Israël se trouve à la porte du pays. 5 civils ont été tués et 3 autres blessés dans l'explosion d'un engin sur fond d'une recrudescence des actes terroristes sur les frontières algériennes. Dans la foulée, le ministère algérien de la Défense a fait état le même jour de l'élimination d'un terroriste dans la région voisine de Kenshala dans le cadre de la lutte antiterroriste, sans qu'un lien ne soit établi entre les deux incidents. Mais ce lien se fait de lui-même dans l'esprit des Algériens qui assistent depuis plus d'un mois aux tentatives désespérées d'Israël et ses amis golfiens et arabes dont s'installer sur les ports de l'Algérie. Les signes d'hostilité et de défi ne cessent d'ailleurs de se multiplier. Lors de la conférence ministérielle de soutien à l'initiative d'autonomie sous la souveraineté du Maroc, tenue virtuellement vendredi 15 janvier sous l'égide des États-Unis, 3 monarchies arabes du Golfe Persique ont exprimé leur appui fort à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara occidental. Même le Qatar y est allé de son commentaire. Sultan Ben Saad Al-Meriki, ministre délégué qatari ayant salué l'initiative du Maroc sur l'autonomie du Sahara occidental, souhaitant que cette proposition aboutisse à l'établissement de la paix dans cette région. Et ce, quelques heures après qu'Aliya Bent Ahmed Al-Sani, représentante permanente du Qatar auprès des Nations Unies, a fait part du soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et ses régions du Sud. Quant à Bahreïn, le satellite saoudien dans le Golfe Persique, son ministre des Affaires étrangères a fait état du feu vert de Manama à la souveraineté du Maroc sur la région contestée du Sahara occidental. et le ministre émirati des Affaires étrangères, Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, dont le pays a joué depuis le rôle de pyromane anti-algérien, tantôt en semant la guerre en Libye, tantôt en armant les terroristes du Sahel, et puis maintenant en mettant le grappin sur le Sahara pour y ouvrir un consulat pour sa part, exprimer le soutien de son pays à l'initiative marocaine. La conférence a d'autre part mis en évidence la décision de 20 États membres des Nations Unies d'ouvrir des consulats généraux dans les villes marocaines de Laayoune et de Dakhla. Ceci étant le corps, n'y était pas, depuis que le départ de Trump est chose irréversible, l'axe Israël-monarchie du Golfe Persique a d'autres chats à fouetter que d'aller nuire aux relations Algérie-Maroc via une mèche à allumer au Sahara occidental pour mettre au pas l'Algérie anti-Israël. La semaine dernière, juste avant son départ pour l'Allemagne, le président Tebboune, qui rechigne désormais à se rendre en France, a limogé un ministre trop pro-émirat, ce qui veut dire qu'il a tout bonnement réclamé ce qui lui revient de droit, à savoir le droit de regard sur les contrats portuaires algériens que convoitent les Émirats, avatars d'Israël. Cela veut dire, par ricochet, que d'ores et déjà, un volet de ce plan assez complexe Sahara contre Palestine a du plomb dans l'aile et qu'à moins d'un vrai face-à-face, l'axe Israël-Émirat ne saurait faire avancer facilement ses pions au Maghreb. Surtout que, mine de rien, les Marocains sont à 88% contre leur roi pour l'histoire de normaliser avec Israël, et sont même en échange d'une marocainité du Sahara. C'est dire que la Palestine fait partie des éléments identitaires au Maghreb, et ce point marocain, tunisien et algérien sont les mêmes à le partager. Voilà, amis auditeurs, c'était quelques extraits sur les évolutions au Sahara occidental. Vous pouvez trouver l'intégralité de cet article sur notre site french.presstv.com. Bonne lecture.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des débats. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a accusé l'Iran d'avoir des liens avec Al-Qaïda, le groupe terroriste. Al-Qaïda de Mike Pompeo est allé de plus loin dans ses allégations sans fondement en prétendant que l'Iran est devenu la base ou bien la nouvelle base du réseau terroriste à Al-Qaïda. La réaction du côté de Téhéran était immédiate. Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que tous les auteurs impliqués dans les attentats du 11 de septembre venaient des pays préférés de Mike Pompeo. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également souligné dans sa réaction sur sa page Twitter que Mike Pompeo, qui était quelqu'un qui était réputé pour ses mensonges, pour ses tricheries, met fin à sa carrière dangereuse et avance en fait de telles allégations sans fondement contre l'Iran. C'est des allégations du côté américain, dans l'état actuel des choses, à une semaine, si vous voulez, de la fin de cette administration de Trump intervient à un moment où tout le monde le sait, que les groupes terroristes dans la région sensible et névralgique du Moyen-Orient sont créés par les États-Unis. Les autorités américaine elle-même l'avait déjà affirmé, même Donald Trump, qui était un président catastrophique pour les États-Unis et pour le monde entier, avait en fait, lorsqu'il était en campagne électorale, avait souligné que le groupe terroriste Daesh, c'était une création des États-Unis. Même chose également pour Al-Qaïda, le groupe terroriste Al-Qaïda qui a été créé dans la région avec l'aide des amis et des pays préférés de Donald Trump et de son secrétaire d'État Mike Pompeo. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse un analyste français spécialiste des questions internationales qui est en ligne avec moi pour cette émission. C'est M. Pierre Dortillier. M. Dortillier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Navrostine, bonjour à tous vos auditeurs et à votre remarquable invité aussi, Mme Issani.
Exactement, le trop d'invités de l'émission d'aujourd'hui que vous qualifiez à juste titre de remarquable, M. Dortillier, c'est Mme Aïssa Remidani, analyste franco-syrienne, qui est avec moi pour cette émission par Skype depuis Paris. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci pour l'invitation. Merci. Bonjour aussi à M. Dortillier et à tous les téléspectateurs de Presse TV.
Madame Midani, je viens de lancer le sujet. Comment t'expliquez-vous ces accusations sans fondement du secrétaire d'État américain Mike Pompeo contre l'Iran, s'il vous plaît?
Bah écoutez, je crois que de toute façon, comme c'est bien, vous l'avez bien indiqué dans votre introduction, les États-Unis sont habitués du fait d'envoyer des accusations d'une part sans aucun fondement, d'autre part de faire eux-mêmes les choses et puis d'en accuser les autres. Il est clair que ce sont eux qui ont créé Al-Qaïda. C'est de toute façon, même Hillary Clinton l'a affirmé à plusieurs reprises, aussi bien dans sa campagne électorale que dans son livre « Hard Choices », où elle disait quand même que ces terroristes, ce sont nous qui les avons créés pour combattre l'Union soviétique en Afghanistan et aussi pour exporter notre démocratie. De la même manière, Trump, dans sa campagne électorale, a à nouveau affirmé aussi que ce sont eux qui les ont créés. Comme en plus, nous savons que l'Arabie saoudite a donné beaucoup d'argent pour la création d'Al-Qaïda, pour le recrutement justement d'un tas de personnes, ils ont aussi organisé les camps d'entraînement, etc., pour soi-disant libérer l'Afghanistan du communisme. Donc, en fait, c'est clair et net que ce sont eux qui les ont créés, d'autant plus aussi que les événements du 11 septembre, il s'est avéré que des dires des Américains eux-mêmes et de l'administration américaine, que c'était des Saoudiens et que ce sont eux qui l'ont organisé. Donc, en fait, la réponse de l'Iran en disant que ce sont vos alliés préférés dans la région qui ont abrité Al-Qaïda et qui les ont recrutés, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait juste, ça d'une part. D'autre part, il est certain, et toutes les pratiques américaines, je dirais, états-uniennes dans la région, ont montré aussi, moi je peux parler de la Syrie, Daesh, Al-Nusra qui a été aussi recruté et entraîné par les forces de l'OTAN, donc les États-Unis, et aussi les forces du Mossad, et tous les services de renseignement des pays de l'OTAN. Eux aussi, ils commettaient des crimes, des massacres et des horreurs, et ils en accusaient systématiquement l'État syrien, le gouvernement syrien, de leurs crimes. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez habituel chez les Américains de commettre les choses et puis d'en accuser les autres. Un dernier point que je voudrais dire, quand il dit qu'il ne serait pas étonné qu'il y ait qu'Al-Qaïda fasse des crimes actuellement, commettent des crimes actuellement pour le compte de l'Iran. Ça veut dire que c'est une manière de commanditer des crimes à Al-Qaïda parce qu'ils comptent bien les mettre sur le compte de l'Iran. C'est exactement ça. C'est une annonce, en fait, de ce qu'ils vont, exécuter et de ce qu'ils vont réaliser comme, comme crime et comme, comme assassinat. Sachant que les États-Unis et Israël sont habitués aussi des assassinats et des grands crimes contre les personnalités. D'ailleurs, le général Qassem Soleimani, le général Al-Mohandes, le grand scientifique Mohsen Fakhrizadeh et aussi des nombreux chercheurs et scientifiques syriens et iraniens. Donc, en fait, ce sont aussi ce sont des habitués des crimes et des habitués des accusations des autres.
Monsieur d'Ortiguet, Madame Mehmedani vient de le préciser tout à l'heure, Al-Qaïda a été créé pour la première fois en Afghanistan par les Américains, avec l'aide de leur allié le plus proche dans la région, l'Arabie Saoudite, qui est réputée pour sa pensée wahhabite, pour surtout l'exportation de sa pensée wahhabite, non seulement dans la région du Moyen-Orient, mais désormais en Afrique et ailleurs dans le monde, une pensée qui s'avère très très dangereuse. C'est une chose évidente, en fait, et connue pour le monde entier. Ensuite, il y a eu d'autres groupes terroristes qui ont été créés, très particulièrement le groupe terroriste Daesh. Monsieur d'Ortiguet, une chose est évidente. Le terrorisme dans la région du Moyen-Orient est au service de la politique américaine, n'est-ce pas?
Oui, en effet, il est au service de la politique américaine qui est elle-même l'exécutant, disons, de groupes financiers entre aux États-Unis même et à l'extérieur. J'en veux pour preuve le soutien à cette déclaration de Monsieur Pompeo qu'a fait, ou une déclaration analogue, disons, qu'a publié le New York Times. Le New York Times, en effet, qui avait soutenu Mme Clinton dans la campagne électorale et qui se présente, disons, comme démocrate, c'est-à-dire opposé au président Trump, eh bien, lui-même, disons, a soutenu, en parlant de Hamas, en parlant de... il a soutenu cette idée que les groupes terroristes, dans lesquels il met le Hamas, mais aussi Al-Qaïda, étaient au service de l'Iran. C'est donc une opinion qui n'est pas une opinion, disons, partisane, propre à monsieur, au groupe de monsieur, politique de M. Pompeo, mais qui semble être, disons, générale, partagée par tous ces groupements américains, qui d'ailleurs sont liés intimement, bien sûr, à la politique sioniste, liés intimement à des monarchies qu'ils ont créées et dont ils ont pris la suite de l'Angleterre, dont ils ont pris la suite, je veux dire, dont ils ont prolongé, disons, le protectorat anglais depuis les accords du Quincy en 1945, vous savez, les accords de Roosevelt. Eh bien, disons que là, c'est Al-Qaïda est véritablement leur instrument. C'est celui qu'avait mis au point M. Brzezinski pour la guerre en Afghanistan. Et je dois dire que je tiens à souligner bien ce que vient de dire Mme Isani, que cela présage des attentats. C'est-à-dire qu'on essaie, disons, de qualifier des troubles, voyez-vous, des assassinats, des exécutions, peut-être même voir des interventions militaires, voyez-vous, sous le faux drapeau de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire c'est un terrorisme qui accuse lui-même, disons, ses adversaires, d'être ses ennemis, d'être des terroristes. C'est une inversion accusatoire, si vous permettez, voyez. Voilà exactement. C'est très grave. Car cela n'est pas lié, disons, à la politique de tel ou tel candidat américain, mais cela signifie que nous rentrons dans une période très dangereuse. Et pour nous, les Français, disons, nous retiendrons toujours la fameuse formule de M. Laurent Fabius, vous savez que nos auditeurs connaissent, bien sûr, les francophones surtout, à savoir que Al-Nosra fait du bon boulot. Vous savez, il avait dit ça à Marrakech, je crois. Et donc, ceci est signé. C'est un crime, voyez-vous, ce crime de soutien de ces organisations terroristes, c'est un crime qui n'est pas seulement national, c'est pas le fruit d'un impérialisme seulement, comme on dirait l'impérialisme américain, comme on pourrait dire l'impérialisme soviétique ou autrefois, ou russe, non, Il s'agit là d'une organisation internationale, je prends au point de en parlant d'Al-Qaïda qui recrute dans le monde, mais ils sont également supportés par des armées, par des États qui les arment, qui les nourrissent. Il ne s'agit pas de former des hommes, mais également de donner du matériel, de donner une assistance logistique. Tout ceci sont des mercenaires, en réalité, voyez-vous, qui obéissent à deux objectifs. Un, détruire, bien sûr, les ennemis de ce qu'on pourrait appeler le nouvel ordre mondial, bien sûr. Et en même temps, de faire porter sur le dos de l'islam, c'est très important, de la religion mahométane islamique, de faire reporter, disons, l'accusation de terrorisme. Voyez-vous, c'est comme un joueur de billard, voyez-vous, ils tirent sur une balle, ils tirent sur une boule et ils font jouer une autre boule. Ça, c'est très important. C'est donc nous avons affaire à un plan, là, je dois dire, un plan bien concerté, très dangereux, et justement, nous ne pouvons que, très modestement, bien sûr, vous remercier de mettre cette déclaration de M. Pompeo en évidence, car elle est, comme a dit Madame, elle est évidemment l'avertissement aussi de troubles futurs et certainement déjà programmés, enfin, voilà.
Est-ce que vous aussi vous pensez, vous estimez, Madame, Midani, ça s'inscrit dans le cadre d'un plan bien calculé pour créer de nouvelles troupes et pour aller en fait vers de nouvelles, si vous voulez, aventures militaires ou autres, d'autant plus que le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, aussi a souligné que, réagissant bien sûr à ces propos de Mike Pompeo, que ce sont des propos bellicistes.
Effectivement, c'est pratiquement un ordre qu'il donne Pompeo aux terroristes qu'ils soutiennent de mener quelques actions. D'ailleurs, je voudrais aussi signaler que systématiquement aussi en ce moment, les agressions israéliennes et contre l'ensemble des populations du front de la résistance, en fait, sont en escalade. L'agression contre les terres palestiniennes, contre les Palestiniens et les prisonniers. Hier, il y a eu aussi des bombardements nouveaux des Israéliens, mais sur les frontières syro-irakiennes, ce qui montre bien aussi qu'il y a une volonté d'une part, et il continue dans le même sens, en fait, que l'assassinat du général Soleimani. Il voudrait effectivement empêcher toute possibilité de coopération et de voie de communication par les terres entre la Syrie et l'Irak. Je voudrais dire quand même, plus il y a rapprochement entre les États syriens et irakiens, plus les bombardements sur les Américains et Israéliens, dont de toute façon ils sont dans le même camp, qui continue justement sur les frontières syriennes, irakiennes, et les agressions contre l'armée syrienne, contre l'armée irakienne et les forces de Hashd al-Sha'bi. Et donc tout ceci avec des prétextes divers et variés de protection de la soi-disant sécurité ou sûreté de l'État fantoche d'Israël qui a lui agressé tout le monde dans la région et qui a usurpé les terres palestiniennes et le droit des Palestiniens et le droit de tout le monde en fait dans la région. Et qui, pour lequel aujourd'hui, et d'ailleurs on a vu le mois dernier comment Trump mettait les bouchées doubles pour le soutenir au maximum, le faire soutenir au maximum par des accords avec Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Maroc, etc., qui sont des accords, des alliances de guerre. Je dirais, où il y a effectivement des accords sur le renseignement, sur le militaire, sur la communication, sur la culture d'ailleurs. Et ça paraît quelque chose de. Ça paraît comme ça, des faits qui sont comme ça un petit peu dispersés, mais en réalité, ils versent tous dans le même objectif, qui est celui d'agresser en fait l'Iran et d'agresser l'ensemble du front de la résistance, des pays du front de la résistance, et d'imposer le diktat américain et de mettre Israël comme étant le pays qui domine dans la région du Moyen-Orient et d'ailleurs qui aurait main basse sur la richesse pétrolière à la fois aussi de la presqu'île arabe et du Golfe. Donc tout ceci, bien sûr, ne trompe personne. C'est une bataille qui est très rangée et qui est très aujourd'hui qui est en pleine escalade. Et ils essayent de mettre les bouchées doubles, effectivement, avant le départ de Trump du pouvoir. Ce qui ne veut absolument pas dire que l'administration Biden sera différente, plus juste, plus correcte, hein, mais elle prend plus des gants, je dirais, et elle prend plus les apparences. Mais il est clair que l'administration Biden ne reviendra absolument pas sur tout ce qui a été décidé par Trump dans cette région, pour ce qui est par exemple de la capitale de Jérusalem, qui est devenue la capitale où les Américains ont mis leur ambassade, de ce qui est soi-disant l'annexion du Golan syrien à Israël, mais en fait qui a été d'ailleurs rejeté par une décision de l'ONU invitant Israël à préparer la libération du Golan et à le mettre et à respecter les lois de l'occupation, en affirmant aussi que le Golan était et restera syrien, et il est syrien de toute façon sous occupation israélienne.
Monsieur Dortiguet, est-ce que vous estimez qu'on peut établir un rapport cause et effet entre ces allégations de Pompeo et de la nouvelle administration américaine qui va se mettre en place presque une semaine?
Oui, en effet. Il est certain que, il est très probable, mais pour nous, disons subjectivement, c'est certain que l'administration de M. Biden, qui reprend la politique de Mme Clinton, qui est dans le même sillage, sera beaucoup plus dangereuse que la politique de M. Trump. Quoique celle-ci le soit, mais beaucoup plus dangereuse parce que elle sera, M. Trump avait tout quand même dans sa politique parlé de certains retraits, voyez-vous, des États-Unis, du Proche-Orient, en laissant à ses alliés, à commencer par Israël, bien sûr, le soin grâce à l'argent qu'il recevait, je crois que à peu près des 4 ou 5 milliards par an d'aide américaine, à, assurer sa propre défense, etc. C'est la même chose. La même observation qu'il tenait sur son allié l'Arabie saoudite, que, disons, ces États-là étaient suffisamment riches, etc., pour pouvoir assumer ce qu'il appelle leur propre défense, bien, militairement. Mais ce n'est pas le cas de M. Biden, parce que M. Biden ajoute au réalisme, si je puis dire, de M. Trump, réalisme qu'on peut qualifier de bien et de mauvais, enfin, ce tempérament réaliste d'homme d'affaires, d'entrepreneur qu'il a. Il y a chez M. Biden, qui est plutôt un diplomate de nature, ou plutôt un haut fonctionnaire, il y a quelque chose de plus hypocrite. C'est-à-dire, c'est toujours cette recherche de la défense des droits, c'est-à-dire que c'est un discours, disons, qui n'est pas ouvertement belliqueux, mais qui lui-même, tiendra compte, justement, de ce fantôme du terrorisme, d'Al-Qaïda, voyez-vous, ce fantôme iranien, si je puis dire, ce fantôme iranien pour pouvoir continuer la mobilisation. Mais n'oublions pas, pour être clair, que Mme Clinton avait une politique agressive contre l'Iran. Voyez-vous, nous pensons que si elle avait été élue, nous aurions eu déjà un conflit, ou tout au moins des attaques fort sérieuses. Et je pense que les adversaires de M. Trump, je ne dis pas que lui-même soit un homme tout blanc, non, mais les adversaires de M. Trump, sur ce plan de la politique du soutien à Israël, sont beaucoup plus actifs. Parce que quand même, Israël a toujours eu, des deux côtés, a toujours une manette des deux côtés, républicains et démocrates, mais plonge quand même chez les démocrates. Dans les démocrates, ils trouvent un appui. Il a une influence beaucoup plus grande, et je n'en veux pour preuve, justement, que cette déclaration sur le caractère terroriste de soutien de Al-Qaïda de l'Iran, qui a été également dans le fameux New York Times, qui tient un tir à plus d'un million d'exemplaires, et est connu pour être un foyer proprement démocrate, etc. Mais très pro-israélien, très très pro-israélien, voyez-vous. En fait, les États-Unis ne peuvent pas se sortir, ils sont comme dans une cage, ils ne peuvent pas se sortir de cette chape impérialiste qui leur a été mise dessus par les politiciens antérieurs. Ils sont dans un destin d'affrontement avec le monde, et je crois que M. Biden est pire, c'est mon opinion naturellement seulement, mais il sera pire s'il est élu que l'aura été M. Trump.
Monsieur Dortiguet, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission, le débat consacré à ces accusations du secrétaire d'État américain finissant Mike Pompeo contre l'Iran, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne, qui a été là avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Le régime israélien a menacé la Tunisie. Israël demande à la Tunisie de choisir entre la normalisation et le paiement des millions de dollars en dommages et intérêts. La déclaration du député et écrivain Safi Saïd a fait l'effet d'une bombe. Ce dernier a lancé lors d'une émission diffusée sur la chaîne Atsia TV qu'Israël voulait que la Tunisie accepte la normalisation des rapports diplomatiques pour demander des dommages et intérêts relatifs aux biens des Juifs qui ont fui la Tunisie. Commentant cette déclaration, l'ancien ministre des Domaines de l'État, Atem al-Houchi, a affirmé que lorsqu'il était ministre, l'ambassadrice de l'Union européenne, Laura Baeza de Giralt, lui avait transmis l'intention d'Israël de demander que les citoyens tunisiens de religion juive qui ont fui la Tunisie en 1967 et 1973 soit dédommagé. Il a souligné dans le même sens qu'il s'agit de montants colossaux. Il a ajouté qu'il lui a répondu que les Juifs en question sont de nationalité tunisienne et qu'Israël n'avait rien à voir avec cette affaire. Il a également fait savoir qu'il n'a pas de jugé utile d'informer le chef du gouvernement de l'époque, Habib Essid, car il n'avait pas à accorder une très grande importance à cette demande. Le 22 décembre 2020, la Tunisie a déclaré ne pas vouloir normaliser ses liens avec Israël. Contrairement à d'autres pays arabes, la Tunisie n'a pas l'intention de normaliser ses relations avec Israël, avait souligné le ministère tunisien des Affaires étrangères. L'Algérie multiplie les gestes de solidarité envers la Tunisie. L'Algérie va partager avec la Tunisie cette dose de vaccin contre le Covid-19. L'information a été donnée par le ministre tunisien des Affaires des étrangères, Ousmane de Djerandi. L'Algérie a déjà passé commande pour deux lots de vaccins, l'un auprès de la Russie et l'autre auprès de la Chine, deux alliés de longue date. L'arrivée du premier lot du vaccin russe programmé d'ici la fin du mois a dû préciser mercredi le ministre algérien de la Santé à la suite de déclarations officielles selon lesquelles il était attendu en début de semaine. L'Algérie n'a pas encore acquis les vaccins, mais dès leur réception, elle va les partager avec la Tunisie. C'est un engagement fort de l'Algérie pour la fraternité entre nos deux pays. La Tunisie, qui a changé deux fois de ministre de la Santé depuis le début de la pandémie, a annoncé une campagne de vaccination pour le deuxième trimestre 2021 et multiplié les contacts diplomatiques pour acquérir le vaccin. La coopération sino-africaine ne cesse de s'améliorer. Comment les relations sino-africaines ont-elles pu résister à l'épreuve du temps et se renforcer au fil du temps avec sa vitalité sans cesse renouvelée? La réponse est très révélatrice. Les relations sino-africaines sont de nature à attacher à la sincérité, à l'amitié, au respect mutuel, à l'égalité, aux bénéfices mutuels, au développement commun. La coopération amicale sino-africaine est conforme à la tendance historique. À chaque période décisive dans le développement des relations sino-africaines, les deux parties prennent de la hauteur pour trouver de nouveaux terrains d'entente et gisements de croissance en faveur de la coopération et d'un nouveau pas en avant dans les relations sino-africaines. Le président chinois Xi Jinping a proposé le principe de sincérité, pragmatisme, amitié et franchise à l'égard de l'Afrique et la juste conception de la justice et des intérêts dans la nouvelle ère. Il promeut personnellement la conclusion d'une communauté de dessin Chine-Afrique encore plus solide. Il a piloté la diplomatie en s'y engageant personnellement pour insuffler une nouvelle dynamique dans les relations sino-africaines. L'Afrique et la Chine défendent le multilatéralisme et le système international centré sur l'ONU ainsi que l'ordre international basé sur le droit international. Les deux parties s'opposent à l'unilatéralisme et au protectionnisme conjointement sur fond d'incertitude et d'instabilité accrue dans le monde. Comme dit l'ex-président du Mozambique, Alberto de Chissano, la grande convergence dans les objectifs de développement de l'Afrique et de la Chine contribue à l'amélioration de l'ordre mondial et de la gouvernance mondiale de manière à offrir une plateforme équitable à tous les pays œuvrant pour la prospérité et le développement. L'année 2020 extraordinaire a témoigné du soutien mutuel entre l'Afrique et la Chine face aux défis graves que constitue l'épidémie de COVID-19. Les armées nigériennes et burkinabées repoussent des terroristes. Les unités nigériennes et burkinabées de la force conjointe du DG5 de Sahel, en coordination avec les partenaires, ont repoussé des terroristes dans le village de Kolman au Niger et de Taka Bougou au Burkina Faso, a annoncé dans un communiqué les unités nigériennes et burkinabées de la force conjointe du G5 Sahel. Les unités nigériennes ont reçu l'information selon laquelle des éléments des groupes armés terroristes avaient fait irruption dans le village de Kolman et par la suite, le poste de commandement adjoint a immédiatement coordonné une intervention aérienne avec le partenaire de des unités nigériennes et burkinabées de la force conjointe du G5
Sahel a précisé toujours le communiqué. De leur côté, les unités burkinabées sont intervenues dans le village de Takabougou alors que des terroristes tentaient de voler du bétail. L'arrivée offensive des unités burkinabées a fait fuir les terroristes qui sont partis de sans avoir pu commettre leur forfait selon la même source. Trois casques bleus tués et six blessés dans une attaque complexe au nord du Mali. Trois casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali ont été tués et six autres blessés dans une attaque complexe menée dans la région de Tombouctou, a annoncé un communiqué de la mission onusienne. Selon le communiqué, au cours d'une opération de sécurité, une compagnie de la MUNISMA a heurté des engins explosifs improvisés avant d'être la cible de tir par des hommes armés non identifiés. L'incident s'est produit à environ 20 km au nord de la localité de Bambara Maoudé sur l'axe Douanza-Tombouctou dans la région de Tombouctou. La riposte robuste des casques bleus a poussé les lâches assaillants à s'enfuir, précise toujours le communiqué. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la MUNISMA, Mahamat Saleh Anadif, a condamné avec fermeté cette nouvelle attaque contre les casques bleus qui mettent quotidiennement leur vie en danger au service de la paix et de la stabilité au Mali, a-t-il précisé. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.